بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, inshallah, ce sera sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je veux parler sur ce sujet-là? C'est parce que tout simplement nous avons constaté que plusieurs parmi nous ne connaissent pas ou méconnaissent complètement la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou connaissent quelques points et parfois superficiels de sa vie alayhi salatu wa sallam. Et donc nous allons donner quelques points, inshallah, repères de la sirah, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis dans une deuxième partie sur le savoir-vivre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'abord je donne quelques points historiques de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, et on est pendant le mois de Rabi' al-Awwal, donc en l'année de l'éléphant, qui correspond selon certains savants, le 22 avril 571. Et tous les historiens sont d'accord sur cette date. Il est né, comme vous savez, à la Mecque, dans une famille de nobles souches. Son père s'appelle Abdullah, sa mère s'appelle Amina. Je rappelle seulement quelques points là. Donc sa mère s'appelle Amina, elle était enceinte. Sa grossesse fut accompagnée de signes annonçant la mission future du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de ce sujet, le sujet de sa naissance, il dit: « Je suis l'accomplissement du vœu formulé par mon père Ibrahim alayhi wa sallam, et l'heureuse annonce faite par Jésus, Isa alayhi wa sallam. Et ma mère a vu, quand il me porta, jaillir d'elle une lumière par laquelle lui étaient illuminés les palais de chair. » Si vous voulez connaître un peu plus sur ce sujet, le sujet des miracles de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous renvoie à un livre qui s'appelle « Le prophète bien-aimé » de Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin, et c'est son grand-père qui après s'est chargé de lui. Et à l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija radiallahu ta'ala anha, qui lui avait donné tous ses enfants, sauf Ibrahim, le fils de Maria la Corte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a eu 7 enfants, Al-Qasim, et puis Zainab, et puis Ruqayya, et puis Kulthum, et puis Fatima, et puis Abdullah. Ce dernier Abdullah qu'on a surnommé parfois Al-Tayyib et parfois Al-Tahir. Et puis Ibrahim, et sa mère c'était Maria Al-Qibtiya, Maria la Corte. Et puis Khadija qui a demandé, il faut dire que Khadija radiallahu ta'ala anha, qui a fait l'effort et il a demandé la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que la femme a le droit aussi, et ce n'est pas que l'homme, que la femme a le droit d'aller demander la main d'un homme qui l'aime, si elle veut se marier bien sûr avec lui. Et il faut noter qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les maux. Allah il dit dans sourate al-Duha, donc le jour montant, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim »« Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fa'hada wa wajadaka a'ilan fa'agna » Donc Allah ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il entoure son prophète et il préserve son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tous les maux. Et puis à la fin de la sourate, il dit: et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et puis à l'âge de 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la parole de Dieu, il a reçu al-wahy, al-Qur'an al-Karim. Alors il se replie dans la grotte de Hira. Les savants de Sira ont distingué dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la révélation jusqu'à sa mort, 4 périodes. La première période, c'est la période secrète. Cette période a duré 3 ans et les musulmans étaient en nombre de 40 environ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invité les membres de sa famille au départ et les proches à se convertir. Donc ça c'est la première période de la prédication. La deuxième période, c'était la prédication publique ou la prédication ouverte. Et tous les Mécois sont invités à se convertir. Ce n'est pas que sa famille. Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va transmettre le message et appeler à se convertir tous les Mécois. Et surtout croire en un seul Dieu unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé tous les moyens pour convaincre les Quraishites, mais ces derniers ne voulaient pas se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont utilisé, ces Quraishites, ils ont utilisé plusieurs méthodes, plusieurs stratégies pour faire face à pour faire face au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au message et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première stratégie, c'était se moquer de l'islam, en dénigrant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'insultant et en l'appelant bi al-majnoun. C'est quelqu'un qui est fou, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran aussi, il nous donne quelques renseignements sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première source de renseignements, d'informations sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi dhikru » إنك لمجنون سورة الحجر verset 6. Et donc, et il, bien sûr les Mécois disent, oh toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Dans سورة المطففين, سورة les fraudeurs, il dit, les criminels riaient de ceux qui croyaient et passent près d'eux. Ils se faisaient des voyades et retournant dans leur famille. Ils retournaient en plaisantant et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leur gardien. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. La deuxième stratégie de ces Quraishites pour faire face à la da'wa, à la prédication islamique, c'est de défigurer l'image de l'islam et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils essaient de salir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message de l'islam. La troisième stratégie, c'est considérer le Coran comme un ensemble de légendes. أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين qui lorsque nos versets lui sont récités dit ce sont des contes d'anciens ou des fables d'anciens. La quatrième stratégie, c'est que Quraysh a fait des tractations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de concilier l'islam avec le jahiliya. Afin de concilier donc l'islam avec le jahiliya et faire des concessions, bien sûr les deux côtés. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il parle sur ce point-là, il dit « Waddu law tudhinu fayudhinun » Surat al-Qalam, l'ayat sa'a. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ils aimeraient bien que tu transiges afin que tu transiges, transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. » Donc, on attire l'islam et la jahiliya au juste milieu, et donc, pour faire une nouvelle religion, si vous voulez. C'est pourquoi Quraysh a proposé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah un an, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait leur statue l'année suivante. Et comme ça, on sera gagnant. Et les Quraishites, ils disaient, au moins, on a adoré une fois le vrai Dieu dans notre vie. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler Surat al-Kafiroun, la Surah des mécréants. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ. Dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. à vous votre religion et à moi ma religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné une réponse claire pour ce sujet. Et donc il a tranché dans cette affaire, il n'y a pas la moindre concession parce que c'est un principe. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, c'est un principe. Et c'est un fondement principal dans la croyance du musulman. Et puis l'autre stratégie aussi, il s'agit d'affaiblir le prophète sallam en lui posant des questions difficiles. Pour cela, ils ont ramené des rabbins juifs pour poser des questions difficiles. Et il n'y a qu'un prophète qui peut répondre sur ces questions. Le conseil de la Mecque donc a décidé de consulter les rabbins juifs. Ceci ont suggéré aux Quraishites donc de poser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des questions difficiles auxquelles donc seul un prophète pourrait répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su répondre et malgré tout ça les Quraishites ne veulent pas croire, ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ces moyens et ces méthodes n'étaient pas efficaces pour réprimer donc l'islam. Les Quraishites ils ont utilisé toutes les méthodes pour réprimer la prédication de l'islam. Alors que les Quraishites ont décidé de chasser et de torturer tous ceux qui se déclarent musulmans. Et cette période commençait à l'année 4 de la mission. Et parmi les grands ennemis, c'était Al-Hakam ibn Abi al-As, c'était Abu Jahl, que le Prophète le qualifie comme Fir'aoun hadihi l'ummah. Donc le Prophète il dit sur Abu Jahl, le pharaon de cette nation, de la communauté musulmane. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont joué un rôle très important, comme Uqba ibn Abi Ma'ir, Abu Jahl, Al-Akhnas ibn Sharif, Al-Thaqafi, etc. Le Prophète il a prié Dieu pour certains parmi eux. Et il y a 7 qui sont tombés morts dans la bataille de Badr, la première bataille entre les musulmans et les infidèles. Quant à ses compagnons, c'est notamment les faibles, ils ont subi toutes les couleurs de la torture. Dans chaque clan, on prenait ceux qui s'étaient islamisés pour les emprisonner, les torturer ou les fouettant en leur faisant subir la faim et la soif et en les exposant dans la chaleur du soleil en plein été. La troisième période, c'était la fondation d'un État qui défend les intérêts des musulmans. Donc le Prophète, quand il a fait l'immigration de la Mecque vers Midi, il a commencé par la fondation d'un État. Un État qui défend les intérêts des musulmans et aussi il protège les musulmans contre les attaques des Quraishites. Le Prophète sallam est sorti à plusieurs reprises à la tête d'une armée, soit à la bataille de Badr à l'année 2 de l'Hégire, à la bataille de Uhud à l'année 3 de l'Hégire, ou à la bataille du Fossé à l'année 5 de l'Hégire. Et donc le Prophète sallam, durant cette période-là, qui a duré environ 7 ans, les musulmans s'affirment de plus en plus et deviennent une force importante à Midi. Et le Prophète sallam, quand il sort à la tête de son armée, c'est pour repousser les infidèles qui venaient chaque fois de la Mecque vers Médine pour, ils voulaient déraciner, chasser le prophète et ses compagnons et puis bien sûr déraciner le message de l'islam. La quatrième période, c'était la prédication ouverte. Bien sûr, cette fois-ci, tout en combattant tous ceux qui empêche l'islam de se progresser. Et donc, c'est une période, c'est plutôt offensif que défensif. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de cette période, alors cette période a été marquée par la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti de la Mecque humilié, mais il a prié Allah subhanahu wa ta'ala, il était sûr qu'il revienne un jour et qu'il va conquérir la Mecque parce que la Mecque c'est le symbole de l'unicité. C'est là où il y a la Kaaba, donc la maison de Dieu, et c'est là où les musulmans vont s'orienter pour faire donc leur prière, etc. Donc c'est un lieu stratégique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attache fortement à donc à conquérir la Mecque. Et donc cette période-là, qui était une période donc offensive pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les moyens légitimes bien sûr, et donc cette période a été marquée à la fin par la conquête de la Mecque. C'est un lieu stratégique et bien sûr pour mettre fin à l'idolâtrie qui régnait à la Mecque. Donc dans cette deuxième partie, je vais parler sur le savoir-vivre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, pour l'aimer, il faut connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Et donc, il faut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'aimer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, par ses nobles qualités, servant l'exemple pour tous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala gratifie son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-Qalam, la plume. Il dit: wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et certes tu es marqué d'une noblesse de caractère immense. C'est une attestation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus parfait et inégal au noble caractère parmi ses créateurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le noble de ses créatures. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, mon Seigneur m'a éduqué et l'a donc fait de bonne manière. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais tout à l'heure, il a préservé son prophète de tous les maux. Et il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et Dieu aussi dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 21: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, un modèle bien sûr à suivre. Pour qui? Pour quiconque espère en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Donc, chers frères, chers sœurs, nous devons nous attacher au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est notre guide, il est notre modèle à suivre.